Alléluia. Alléluia. Nous prenons Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Et nous lirons à partir du tout premier verset. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Quelqu'un dit Amen. Et nous acclamons la parole du Seigneur. Nous étions en train de parler sur ce thème. La parole faite chair habite. La parole habite parmi nous. Et le passage que nous venons de lire nous fait voir qu'il a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Alléluia. Plein de grâce et de vérité. La parole avait été faite chair, et ces commentateurs que nous avons évoqués dimanche passé étaient en train de s'interroger en ces termes, en disant comment la parole infinie de Dieu peut-elle habiter la finitude de l'homme? N'est-ce pas là un mystère? Un mystère. La parole de Dieu, Jésus-Christ, comme un médiateur implacable, irremplaçable, celui qui est la parole, ouvre devant tous ceux qui le reconnaissent la possibilité d'atteindre Dieu, Dieu qui est la source de toute vie. Alléluia. Oh, alléluia. Dieu donne la possibilité à toute personne qui croit en Christ, la possibilité d'atteindre, de l'atteindre. C'est ainsi qu'il est dit au verset 12 que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, donc, la parole de Dieu, ou la lumière, parce qu'elle était la lumière, la parole était la lumière du monde. Elle, donc, qui représente Christ, donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et l'épître de Jean nous dit, la première épître, chapitre 5, nous dit que celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas de fils n'a pas de vie. Ce sont des choses simples, mais c'est tellement simple que les gens passent à côté. Plusieurs peuvent rester toute leur vie se disant, moi je suis 100% ceci, je suis 100% ceci. Cette religion, c'est depuis nos arrières, grands-parents. Et passer à côté, alors que la chose est si simple, elle était tellement simple que lorsque Jésus annonçait ces choses-là, un érudit de la parole, de la loi, quelqu'un qui était en train d'enseigner la loi ne saisissait pas. Je parle là de Nicodème.
qui ne saisissait pas. Jésus lui parle de la nouvelle naissance, naître de nouveau. Lui, il dit, même à mon âge ici, dois-je encore rentrer dans le ventre de ma mère et naître de nouveau? Jésus est en train de parler de la dimension spirituelle. Et lui ne saisissait pas. Quoique il était en train d'enseigner la loi, mais il ne saisissait pas ce que le Seigneur était en train de dire. C'est pourquoi plusieurs peuvent rester des mois, des années entières dans une assemblée comme celle-ci, ne jamais accéder au salut, ne jamais accéder à la conversion, à la repentance, ne jamais accéder au salut, à la vie éternelle. Et ça, c'est grave. Pourquoi passerais-tu tout ton temps ici et ne pas accéder à la vie éternelle? Bien-aimé, chacun doit être sûr qu'il a été sauvé. La question d'être sauvé ne doit pas encore connaître des discussions au fond de toi-même. Tu dois savoir que en telle date, en telle période, la parole m'avait été annoncée, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur et mon Seigneur. Sinon, tu demeures la proie de Satan. Car Satan entre de ce côté-là, dans ce domaine-là, pour perturber la vie des gens. Est-ce que toi, tu es un enfant de Dieu? Est-ce que toi, tu iras au ciel? Et tu commences à paniquer et tu trembles. Mais au lieu de régler ces problèmes, tu ne les règles pas. Ce n'est pas de la prétention que de dire que j'irai au ciel. Non. Quand tu sais que tu as accepté Christ comme sauveur et Seigneur, et que tu marches en nouveauté de vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu iras au ciel. Oh, alléluia. Alléluia. La seule condition qui fera que les gens puissent entrer dans la présence du Seigneur, c'est le Fils de Jésus au fond de leur cœur. Et Christ entre dans le cœur de chacun lorsque chacun prend la résolution de l'accepter comme sauveur et Seigneur, sincèrement. Et quand on accepte Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, 2 Corinthiens 5, 17, bien-aimé dans le Seigneur, est clair là-dessus, il dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Si les choses demeurent encore anciennes dans ta vie, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Mais la conséquence de la nouvelle naissance, c'est quoi? Les choses anciennes passent et les choses nouvelles prennent place. Les choses anciennes passent et les choses nouvelles prennent place. Bien aimé dans le Seigneur. Il faut régler cette question-là. Et pendant que je parle, il y a déjà quelqu'un dont le cœur commence à battre à 240 à l'air. En se disant, oh, qu'est-ce que le pasteur est en train de dire? Donc moi, je ne suis pas enfant de Dieu. Je viens à la parole éternelle depuis autant d'années. Je donne mes dîmes, je donne mes offrandes. Donc je ne suis pas enfant de Dieu. Qui t'a dit que les dîmes que tu donnes et les offrandes que tu donnes, les dons que tu donnes, les contributions que tu fais pour que les jours qui viennent, les mois, les années qui viennent, nous puissions construire ce temple, le temple en ces lieux, te donne l'opportunité de devenir un enfant de Dieu. On trouvera ton nom dans les bonnes œuvres. Les livrets des bonnes œuvres, on va trouver ton nom. Mais lorsqu'on ira dans les livres de vie, on ne trouvera pas ton nom. Et on dira de toi, dehors, je ne t'ai jamais connu. La seule condition, la seule chose qui te permet d'entrer dans la présence du Seigneur, c'est son Fils au fond de ton cœur. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas de Fils n'a pas de vie. 1 Jean chapitre 5. Allez scruter la Bible, découvrez ce qu'il y a. La parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, est la base de tout succès durable. La parole de Dieu. Quand vous lisez Deutéronome au chapitre 28, Deutéronome chapitre 28 nous dit quoi? Nous dit que si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera quoi? La supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville. On commence à énumérer les bénédictions. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs, les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies.
Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront, je m'excuse, contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tout le peuple, écoute, on va continuer comme ça à te présenter toutes les bénédictions. Mais écoutez, il y a des gens qui ne viennent qu'à partir de verset 3 et commencent à réclamer ces choses. Il est dit que quand tu obéiras, si tu n'obéis pas, tu ne peux pas réclamer ça. Obéir à quoi? Obéir à la parole prescrite. Obéir à la parole donnée. Lorsque tu obéis à la parole, alors tu vas avoir toutes ces choses. Mais qu'est-ce qui arrive au verset 15? Au verset 15, il dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. C'est Dieu qui parle. Il dit quoi? Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Quelqu'un dit, Dieu peut maudire les gens. Non, la porte à la malédiction, c'est toi qui l'ouvres. Pourquoi? Parce que tu n'as pas observé les paroles, tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel te prescrit. Proverbe 13, verset 13 dit que celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint les préceptes est récompensé. Si tu veux être récompensé, crains les préceptes. Soumets-toi aux préceptes. Alléluia. Mais celui qui méprise la parole se perd. Comment est-ce que tu peux être sûr que tu es en train de mépriser la parole? Premièrement, par le fait que tu ne la consultes jamais. Par le fait que tu n'ouvres la Bible jamais pour pouvoir lire par toi-même, lire la parole de Dieu. Tu es en train déjà de mépriser la parole. Elle n'est pas intéressante pour toi, elle n'est pas importante pour toi dans la vie. Tu n'en as pas besoin. Voilà pourquoi tu n'ouvres pas les livres. Tu n'en as pas besoin et tu demeures dans l'ignorance. Tu méprises déjà la parole par le fait de ne pas la consulter. Deuxièmement, comment seras-tu sûr que tu es en train de mépriser la parole de Dieu? Par le fait qu'après l'avoir consultée, tu ne la mets pas en pratique, tu ne t'exerces pas à obéir à cette parole que tu connais. Tu es en train de mépriser la parole de Dieu. Plusieurs ont la connaissance de la parole de Dieu, mais ils ne la mettent pas en pratique. Ils sont des fils du diable. Le diable connaît la parole de Dieu, mais le diable ne met pas la parole de Dieu en pratique. Non, il ne pourra même pas. Jérémie dit que, s'adressant à Dieu, il dit que tes paroles ont fait la joie de mon cœur. Jérémie 15, verset 16. Tes paroles ont fait la joie de mon cœur. Est-ce que les paroles de Dieu font-elles la joie? Les paroles de Dieu font-elles la joie de ton cœur? Est-ce que ces paroles font la joie de ton cœur? Tu n'as même pas le temps d'ouvrir la Bible pour consulter la parole de Dieu. Si je pose la question de savoir qui est-ce qui a ouvert leur Bible ce matin, je vais être scandalisé. Chacun dit, non mais parce que ce dimanche on venait au culte. Qui t'a dit que si on vient au culte dimanche, on ne doit pas ouvrir la Bible? On lit sa Bible le matin avant de venir au culte. Oh, alléluia. Alléluia. On lit sa Bible ce matin. J'étais édifié par ma méditation de ce matin. Dans ce chapitre de Jean, chapitre 1er, quand on dépasse la partie ici que nous prêchons, lorsque Jean a dit à ses propres disciples, dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dit, voici l'agneau de Dieu. Et quand il a dit, voici l'agneau de Dieu, pour la deuxième fois, il avait autour de lui deux de ses disciples. Dès qu'ils ont entendu ceci, ils ont suivi Jésus-Christ. Ils ne se plaignent pas. Au contraire, qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'il monte et que moi je puisse descendre.
Je n'ai pas le droit même de délier ça, donc le lacet de ses chaussures. Non. Que lui monte. Oh, amen, amen. Et ces gens, lorsqu'ils ont suivi Jésus, ils disent, mais nous voulons savoir où est-ce que tu demeures. Alléluia. Autrement dit, qu'est-ce que je veux dire? Nous voulons connaître où est-ce que tu demeures pour que nous sachions te visiter constamment. Et même mieux, que nous puissions demeurer avec toi. L'un d'entre eux, quand il a vu où est-ce qu'il demeure, il est allé parler à son frère. Il a parlé à Simon. Simon, son frère. Lorsqu'ils sont arrivés avec Simon, Jésus lui dit que tu es Simon, fils de Jonas, mais tu ne seras plus appelé Simon, tu seras appelé Cephas. Autrement dit, Pierre. Voilà comment il change radicalement la vie de quelqu'un. Pourquoi? Parce que quelqu'un a accepté de suivre Jésus-Christ en se disant, je ne vais pas le suivre seul. Mon frère est en arrière. Il va chercher son frère pour qu'ensemble, ils puissent suivre Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu fais de la parole que toi tu reçois? Tu la gardes pour toi-même ou est-ce que tu la partages avec d'autres? Là, j'étais dans ma méditation de ce matin. La parole de Dieu. Nous devons la désirer. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un dit amen. Écoutez, la parole de notre prédication de ce matin, premièrement, elle est la conséquence de notre méditation personnelle. Lorsque nous consommons la parole, nous devenons comme le dépôt. Le dépôt, en nous, il y a la parole. Peut-être que tu ne vas pas te rendre compte, mais sache que puisque tes yeux ont croisé plusieurs fois la parole, cette parole est en toi. Un jour, tu vas être surpris. Comment elle va jaillir? Elle va sortir. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Mais si tu n'as pas un dépôt de la parole de Dieu, tu as un vide. Il n'y aura pas une parole qui va remonter. Il n'y aura pas. Parce que la parole qui doit remonter doit sortir de ton dépôt. Oh, amen. Il doit sortir de ton dépôt. Si ton dépôt est vide, tu n'as rien. Deuxièmement, la parole de notre prédication, elle n'est pas celle d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. Oh, alléluia. J'ai dit que c'est la parole de Dieu lui-même. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13 dit quoi? 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13 nous rend ceci. Il dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Quelqu'un dit amen, amen. Oh, alléluia. Quand nous prêchons la parole, toi tu la reçois comme la parole de qui? Vous savez, les gens, quand une parole les arrange, hein, ils disent, ça c'est la parole de Dieu. Ça c'est la parole de Dieu. Oh, homme de Dieu, prêche encore. Pasteur Kali, Teya Liloba Nzambe, Coca-Cola Yango, Teya, Teya, Teya. Là c'est quoi? C'est la parole qui t'arrange, qui te fait du bien. Mais quand la parole ne t'arrange pas, elle est à l'encontre de tes aspirations. Ah, ça, ce n'est pas la parole de Dieu, ça, c'est la parole d'un homme. Vous voyez, il veut parler de lui-même. Donc, à un certain moment, c'est la parole de Dieu, parce que ça t'arrange. C'est pourquoi Paul, s'adressant à Timothée, dit, prêche la parole en tout temps, favorable ou défavorable. Quand il viendra un temps où les gens chercheront à entendre ce qu'ils font, font de la démangeaison, ce qui les arrange. C'est que moi j'appelle des prédications disques demandés, disques commandés. C'est quand vous dites non, bis, quand vous entendez les gens disent bis, c'est-à-dire que soit ça l'arrange par rapport à, ou soit était Mutumusus. Alors donc il sait que sa belle-mère est là. Il dit, elle est zongle ango. Pourquoi? Pas pour que moi j'entende, pour que la belle-mère, hein? Quand la parole est libérée, elle est adressée à toi, pas à ton voisin. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Il est dit ici, il dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu, vous les Thessaloniques, vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. La parole de Dieu agit en nous. La parole de Dieu est faite pour agir en nous. La parole de Dieu est faite pour pouvoir quelquefois nous briser, quelquefois séparer des choses en nous, quelquefois nous édifier, quelquefois nous exhorter, quelquefois nous reprendre. La parole de Dieu fait tout ce travail-là. Ce n'est pas tous les jours où nous avons la parole qui nous exhorte, qui nous édifie. Il y a des jours où la parole vient comme une épée. C'est pour séparer ce qui est mauvais et ce qui est bien. Il faut les séparer, accepter cette séparation que la parole de Dieu est en train de faire en vous. Oh, alléluia. Chaque jour, vous n'aurez pas que vous savez, pour faciliter l'absorption des médicaments pour les enfants, on fait quoi? On fait des sirops, n'est-ce pas? On fait des sirops, c'est pour faciliter aux enfants d'avaler les médicaments. Mais à un certain âge, on ne va pas continuer à te donner ces sirops-là. Parce que toi, tu n'as plus besoin de sirop. Tu dois apprendre à jeter dans la bouche un grain de médicament, donc un comprimé, et puis avaler de l'eau. Il y a des gens quand ils mettent le fait seulement de savoir que ce comprimé va descendre sur sa langue. Vous voyez une femme de 28 ans en train de pleurer parce qu'elle doit avaler donc ce comprimé là de quinine ou je ne sais pas quoi. Elle commence à pleurer. Pourquoi? Comment je vais avaler? Parce que ça va rester sur la langue et puis le goût mauvais des médicaments va rester sur ma langue. Mais donc, vous voyez quelqu'un en train de passer un mauvais quart d'heure rien que pour un comprimé. Fini, il y a des moments dans la foi, fini la période des sirops. Ce sont des comprimés. Mais quand Dieu te permet de donner une quinine spirituelle, ce n'est pas pour te tuer. Quand nous prenons une quinine, ce n'est pas pour que nous puissions mourir. Au contraire, c'est pour que nous tuions la malaria qui est en nous, oui ou non? Oh, amen, amen. Et quand Dieu nous envoie la parole, c'est pour tuer l'ennemi qui est en nous, celui qui ne veut pas de notre bonheur, qui est en nous là. Dieu veut le tuer par sa parole. Quelqu'un dit amen bien. Lisons la parole de Dieu, bien-aimé. Il n'y a pas que la parole prêchée. Il y a la parole lecture personnelle. Il y a la parole méditation personnelle. Est-ce que nous avons un contact personnel avec la parole de Dieu? Jacques chapitre 1, verset 21 dit que c'est pourquoi, rejetant toute suire et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. J'aime ça. Il dit, c'est pourquoi rejetant toute suire et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Bien-aimés, seule la parole plantée en nous peut sauver nos âmes. Vous entendez? Elle est plantée en nous. Mais nous pouvons désobéir à cette parole qui est plantée en nous. Et malgré qu'elle a été plantée en nous, elle ne peut pas nous sauver. Il y a des gens qui ont une connaissance cérébrale de la parole de Dieu et qui peuvent vous développer des choses parce qu'ils sont intelligents. Mais dans ce qu'ils développent là, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de vie. Vous sentez que c'est seulement l'intelligence de l'homme qui est en train de faire cela. Il y a beaucoup, hein, dans certaines de nos communautés ici au Congo qui sont théologiens, qui ont été à l'école de théologie en Allemagne, à l'école de théologie en Angleterre, qui ont été à l'école de théologie dans plusieurs pays. Et généralement, c'est quand on donnait des bourses, les Norvégiens donnent des bourses, les Allemands, etc., etc. Alors quand on donne des bourses, les parents qui sont influents dans la communauté, parce que papa est secrétaire général, et l'oncle est secrétaire général, ou bien les ceci, on se dit, ah, j'ai un moine en casse, j'ai mon neveu, il faut que mon neveu aille là-bas. Le neveu là, il ne connaît rien de l'église. Le neveu ne fréquente même pas l'église. Il dit, petit, ça me semble, me prendre là, t'as bien. Faut pas venir là-bas avec un pantalon, donc on voit tout. Non, il faut être sérieux, on va te checker ces jours-là. Ce n'est pas ce qu'on doit retenir ton dossier, tu dois aller faire la théologie. Fais comme semblant d'être un saint. Alors lui aussi, il fait semblant. On retient son nom, il va faire la théologie. Mais c'est un païen. Wamutu Poutou. Un païen. Alors il finit là-bas. Mais il est intelligent. Il, tout ce qu'on dit, mais il sait mémoriser les choses. Tout ça, il apprend. Il apprend aussi là-bas la philosophie, tout ça. Il apprend toutes ces choses et il revient. Mais comme les membres de la famille influents toujours là, on s'arrange. Et puis, comme dans ces églises-là, on crée des paroisses. Il parle en termes de paroisses. Et puis, on lui confie la paroisse. J'aime bien la politique des assemblées de Dieu. J'aime bien la politique de la bonne. Tu dois faire preuve que tu as été appelé au ministère. Va commencer le travail. Oh, amen, amen. Non, on crée l'église, on construit et puis on les place là-bas. On l'appelle ta papa révérend. Il est intelligent. Il peut développer des choses. Mais ça ne bouscule pas les cœurs. Ça ne touche pas les cœurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vie. Quelquefois, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi vous revenez dimanche après dimanche à cet endroit. Je tremble. Et souvent, j'ai dit à Dieu, si tu ne m'assistes pas, je suis perdu, tu le sais. Et tu sais que si je me perdais, je me perds avec un grand nombre. Seigneur, donne que quand je parle, que le cœur de quelqu'un soit secoué. Ça, c'est ma prière. Quand je parle, que le cœur de quelqu'un puisse tomber d'accord avec ta parole. Paul a dit, vous l'avez reçu non pas comme la parole des hommes, mais comme étant la parole de Dieu. Bien-aimé, ce que je vous annonce, c'est la parole de Dieu. Ce que je te communique, c'est la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que je t'annonce, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? C'est pourquoi rejetant toute souillure, oh, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La parole qui a été plantée en vous peut sauver vos âmes. Quelqu'un dit amen. Lorsque nous rentrons dans Jean chapitre 1er, au verset 10, il est dit que elle, donc la parole, était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Vous voyez ça? Le monde qui a été fait par elle, mais le monde n'a pas connu la parole qu'il a faite. Le monde ne l'a pas connue. Le verset 11 dit qu'elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Il y a risque de ne point recevoir la parole alors qu'elle vient chez nous. Il y a risque que nous puissions la rejeter. Il y a risque. Le monde est le lieu où Dieu parle. Dès lors, deux groupes se forment parmi les humains qui restent libres face à la parole de Dieu. Certains préfèrent, comme je le disais dimanche passé, je ne sais pas si je le disais au premier, certains préfèrent leur autonomie, ils préfèrent leur liberté et n'acceptent pas de se lier à la parole, de se donner à la parole qui les interpelle et pourtant, ils refusent de se donner à la parole qui les interpelle. D'autres, heureusement, accueillent cette parole et reçoivent grâce à elle une vie nouvelle qui les transforme, mais aussi la garantie de se faire accompagner au quotidien par celui qui est la parole. Alléluia. Verset 9 dit, cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Amen. Qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Oh, combien nous voulons être éclairés par la parole. Tout en demeurant la parole, Jésus a été pleinement homme. Et la parole, verset 14, a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons, Jean dit, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Une gloire comme celui du Fils unique venu du Père. Tout en demeurant la parole, disais-je, Jésus a été pleinement homme. Il a vécu, habité parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, dit Jean. Les mots habité et la traduction du mot grec eskenosen, de skene. Skene qui peut être traduit en français par tabernacle. Donc, tout comme Dieu était toujours présent dans les tabernacles, quand vous voyez Exode 40, verset 34, Jésus, lui, a habité parmi les hommes. La révélation glorieuse de Dieu manifeste, frères et sœurs, manifestée plutôt par la parole qui est le Logos,
était pleine de grâce et de vérité.
J'ai dit que la révélation glorieuse de Dieu, manifestée par la parole, le Logos donc, était pleine de grâce et de vérité. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'une révélation bienveillante et une révélation véritable. Cette expression pleine de grâce et de vérité est la traduction de celle en hébreu par laquelle Dieu se présente à Moïse lors du renouvellement de l'alliance. Nous sommes dans Exode, verset 34, verset 6, du chapitre 34, verset 6, et qui est très souvent reprise dans l'Ancien Testament. Exode 34, verset 6, je prends cela dans la version Semer, dit que l'Éternel passa devant Moïse en proclamant « L'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. » Quelqu'un dit « Amen ». Donc, de l'hébreu « Emet » pouvant signifier « fidélité » ou vérité, Jean 1, 17 dit, en effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi est venue par Moïse, mais bien aimé, quand vous regardez Moïse, vous attendrez longtemps, vous ne trouverez pas en lui grâce et vérité. Vous trouverez la loi, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, nous dit Jean. Pleine de grâce et de vérité. C'est cela le grand désir de Dieu. Qu'il puisse habiter par le truchement de celui qui est la parole parmi nous. Qu'il habite pleinement par le truchement de celui qui est la parole. Et habiter au milieu de nous. Vivre avec nous au quotidien. Ça, c'est le désir de Dieu. Vivre avec nous au quotidien. Lorsque vous lisez Colossiens chapitre 3, Colossiens chapitre 3, excusez-moi de prendre ce passage, Colossiens chapitre 3, verset 16, il est écrit ceci, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Alléluia. Et la Bible expliquée à ce niveau dit que la parole du Christ, avec toute sa richesse, habite en vous. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec une pleine sagesse. Chantez à Dieu de tout votre cœur et avec reconnaissance des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Ces versets comprennent donc trois parties. La première partie, c'est que nous devons d'abord laisser la parole de Christ demeurer en nous dans toute sa richesse. La parole de Christ, ce sont ses enseignements. La parole de Christ, ce sont ses enseignements contenus dans la Bible. Si nous nous imprégnons notre cœur et notre esprit de sa sainte parole, et si nous cherchons à marcher en nous y conformant, alors elle demeure vraiment dans notre cœur. Quelqu'un dit amen. Alors il va demeurer vraiment dans notre cœur. Nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Prenez avec moi Jean, chapitre 15, verset 7, le verset 10, avant de prendre Jean 14. Jean 15 d'abord. Jean 15, verset 7 et le verset 10 dit quoi? Il dit, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Quelqu'un dit amen. Verset 10 dit quoi? Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Quelqu'un dit amen. Vous ne pouvez pas dire que vous demeurez dans l'amour de Dieu si vous ne gardez pas ses commandements. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Jésus si vous ne gardez pas ses commandements. Et comment garder les commandements de Dieu que je n'ai pas? Pour garder les commandements, je dois commencer par les avoir, par les posséder. Comment garder quelque chose que je n'ai pas? Bien-aimé dans le Seigneur, comment puis-je garder quelque chose que je n'ai pas? Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Bien-aimé dans le Seigneur, plusieurs... Comment peux-tu dire à ta femme que je t'aime, c'est suffisant, mais tu n'as pas besoin d'entendre ma voix? Oh, avec moi, bâtiment administratif, vous êtes là. Comment pouvez-vous dire à votre mari, tu dois simplement savoir que je t'aime, mais tu n'as pas besoin d'entendre ma voix? Ça se passe comme ça? C'est comme ça que les mariages se consomment? Deux personnes qui ne se parlent pas, qui se regardent, et c'est fini? C'est comme ça que ça se passe? Moi, je ne fais pas de ces mariages-là. Moi, je veux des mariages où je parle avec ma femme. Nous interchangeons, nous partageons, nous parlons. Amen, amen. Oh, alléluia. Mais il y en a plusieurs qui pensent aimer Jésus de cette manière-là. C'est-à-dire, Jésus, tu dois seulement savoir que je t'aime, mais je n'ai pas besoin de ta parole. Ta parole. Tu dois seulement savoir que moi, je t'aime. Moi, ouvrir ta Bible là, voir ce que tu me dis là. Non, non, ça, ce n'est pas mon fort. Sache seulement que je t'aime, point barre. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le taux de pourcentage de ton amour pour Christ équivaut le taux d'âge que tu as de ton contact avec la parole de Dieu. Si tu aimes la parole de Dieu à 10%, c'est l'amour que tu as pour Jésus. Tu aimes Jésus à 10%. Si tu aimes la parole de Dieu à 70%, tu aimes Jésus à 70%. Tu ne peux pas dire « J'aime Jésus, il sait combien je l'aime de tout mon cœur, mais je ne connais pas sa parole, je n'ai pas sa parole, ce n'est pas un problème. » Non, c'est un problème. Amen. Comment obéir? Comment savoir qu'il veut que tu ailles à gauche quand tu ne sais pas qu'il l'a dit « Va à gauche. » Oh, amen, amen. Alléluia. Tu n'es pas un amoureux de Christ. L'amoureux de Christ, c'est celui qui peut dire « Mon mari. » Vous savez, il y a des familles, il y a des couples là, même quand le mari n'est pas là, la femme prend des décisions et dit, même mon mari quand il était ici, il allait décider de cette manière-là. Pourquoi? Elle a toujours l'habitude d'entendre son mari parler et voir son mari faire. Donc, elle agit conformément aux échanges qu'elle a toujours eu avec son mari, oui ou non? Mais aussi, c'est comme ça, quand tu es seul à ton poste de travail, quand tu es seul à l'université, quand tu es seul à X, Y endroit, tu agiras conformément à ce que ton Seigneur t'a déjà dit. Tu connais la parole de Dieu. Amen, amen. Oh, alléluia. Quelqu'un me pose la question, une dame de quelque part me pose la question en disant, « Pasteur, est-ce que c'est un péché que d'avoir un homme qui paye tes minervales, tu vis avec lui pour qu'il paye ton minerval? Est-ce que c'est un péché? » J'ai compris que cette personne a des problèmes avec la parole de Dieu. Amen. Parce que si elle connaissait la parole de Dieu, ça c'est une question qu'on ne peut pas poser, oui ou non? Et quelquefois on sait aussi que c'est mauvais, mais on veut avoir l'accompagnement de l'homme de Dieu qui nous accompagne dans mon péché. S'il me dit, ce n'est pas un problème, comme tu n'as pas, tu es orphelin, tu vois un peu, tu es orpheline. Ah bon, jusqu'à ce que tu finisses tes études, cet homme-là, tu peux continuer à vivre avec lui pourvu qu'il paye ton minerval. Dieu comprendra. Et quand il sort de mon bureau, il se frotte les mains. Même le pasteur est d'accord avec moi. Je ne suis pas ce genre de pasteur. Je ne suis pas, même quand je saurais que tu amènes une dîme, je ne sais pas si toi tu amènes une dîme de 3 000 ou de 5 000 $, quand je saurais que tu vis dans le péché, je te le dirai. Et même si dans ton cœur tu me dis ça, je n'apporterai pas ma dîme. Va avec ta dîme. Parce que du reste, une telle dîme là devient un piège. Nous cherchons des choses qui sortent des cœurs saints et qui viennent sanctifier la maison de Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, mon fardeau, c'est là, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Quand on t'invite mercredi lieu où nous apprenons, est-ce que tu viens? Vous voyez, il y a des gens, des chrétiens qui veulent toujours la bénédiction de Dieu, mais sans le Dieu qui donne la bénédiction. Ils veulent que Dieu leur accorde ceci et cela. C'est pourquoi ils viennent nombreux vendredi. Nous mettons les gens même dehors vendredi. Parce qu'ils veulent que Dieu intervienne, que Dieu les guérisse. Mais même ta prière, elle est mal formulée. Parce que la prière bien formulée, c'est celle qui a comme soubassement la parole de Dieu. Et toi tu pries, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Tu n'as pas la parole. Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Avant de venir vendredi, tu devrais venir d'abord mercredi en ces lieux, savoir ce que Dieu dit, pour que vendredi tu saches comment soutenir ta prière par la parole que tu as reçue. Ah non, parce que nous c'est vendredi, tu es à côté de ça. Tu es à côté de la moto. Moto, si qui ça va encore. Moto, tu m'as encore. Moto, qui t'en a là. Et si qui ça m'y salaire. Tombe la bombe. Oui, je t'encourage de soulever la bombe. Mais avant de la soulever, rassure-toi de savoir comment on manipule cette bombe. Parce qu'elle peut éclater entre tes mains. Oh, église est avec moi. Fais attention. Comment on manipule la bombe? N'avez-vous pas appris que des enfants sont tombés sur des engins? Et puis après, non, ces mains se sont donc... on a été amputés et des mains et des jambes. Pourquoi? Les enfants ne savaient pas comment manipuler ce qui était entre leurs mains. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons venir mercredi en ces lieux. Papa, maman, enfants, jeunes gens, fils et garçons, venir mercredi en ces lieux, nous asseoir et nos yeux suspendus aux lèvres de celui qui recevait la pensée de Dieu. Car l'homme est ce qu'est sa pensée. Nous devenons ce que nous consommons. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Nous devenons ce que nous consommons. J'ouvre une parenthèse. Je dois m'arrêter. Je vais continuer prochainement. Je vais m'arrêter. Même sur le plan physique. Si toi, tu ne manges que des choses avec beaucoup de graisse, beaucoup de graisse, beaucoup de graisse. Oh, mon Seigneur, on fout tous les arakito koming. Et d'autres choses qu'on appelle quoi? Yajan. À l'époque, on appelait des yajan. Yajan était fait sur base de quoi? Je n'avais jamais mangé yajan. Ça continue toujours yajan. Aujourd'hui, il y a quoi? Hein? On achète des histoires, vous achetez toujours des cuisses, donc graisse, boy, tu ne consommes que ça, tu ne consommes que ça, tu ne consommes que la graisse. Ta santé va ressembler à cela, tu vas avoir une santé médiocre. Parce que quelqu'un a dit, dis-moi ce que tu mets sur ton assiette, dans ton assiette, je dirai quelle est la qualité de santé que tu as. Amen, amen. Pensez pas qu'en mangeant toujours la viande, c'est ça la bénédiction. La viande, à un certain âge, il faut commencer par l'oublier. Commencer à l'oublier lentement. Quand tu as déjà 35 ans, ta consommation de viande, je suis dans la parenthèse, ta consommation de viande doit être vraiment, si tu ne l'élimines pas totalement, alors il faut diminuer ta consommation de viande. Ce sont les enfants qui en ont besoin, moins de 28 ans. Oui, ils peuvent encore consommer la viande. Mais à un certain âge, la viande devient un poison. C'est bon dans la bouche. Je ne sais plus comment la viande goûte. Parce que j'environne maintenant presque 14-15 ans que je ne mange pas de viande. Je n'ai pas de la viande rouge. Chèvre, ngombe, et j'en passe. C'est bon quand vous en consommez, n'est-ce pas? Mais vous ne savez pas ce que ça fait dans les corps. Après 35 ans. Je ferme la parenthèse pour dire... Ce que tu consommes aussi spirituellement, c'est ce que tu deviens. Proverbe dit que l'homme est ce que sa pensée. Or, notre pensée est constituée de ce que nous consommons. Qu'est-ce que nous avalons comme parole? Qu'est-ce que nous avalons comme chose? Il y a des gens qui sont pleins de pourriture dans leur esprit. Sur l'internet, sur la télé. Donc, toujours de mauvaises choses. On est toujours là. On est devenu adepte, spécialiste. Mais jamais le temps. 15 minutes, 20 minutes de la parole de Dieu, 30 minutes pour la parole de Dieu. Non. Mais on peut passer des heures et des heures devant ces choses qui nous suivent l'esprit. Et on veut être béni de Dieu. Et nous disons, nous sommes chrétiens. Pendant que nous sommes éloignés de la parole de Christ. Nous allons continuer.
Je ne pouvais pas m'imaginer que j'allais rester un mois. J'ai comme l'impression que je vais rester un mois sur ce sujet. Dieu veut te parler, Dieu veut me parler. Quelle est ma relation avec la parole de Dieu? Nous courbons notre tête dans la prière.